Trois jours après les attentats, je relis ces mots de Victor Hugo, ces mots qu'il écrit dans son introduction à un livre pour l'exposition universelle de Paris, il y a un peu plus de 150 ans. La fonction de Paris, c'est la dispersion de l'idée. Secouer sur le monde l'inépuisable poignée des vérités, c'est là son devoir et il le remplit. Faire son devoir est un droit. Paris est un semeur. Où sème-t-il? Dans les ténèbres. Que sème-t-il? Des étincelles. Tout ce qui, dans les intelligences éparses sur cette terre, prend feu ça et là et pétille, est le fait de Paris. Le magnifique incendie du progrès, c'est Paris qui l'attise. Il y travaille sans relâche. Il y jette ce combustible, les superstitions, les fanatismes, les haines, les sottises, les préjugés. Toute cette nuit fait de la flamme et grâce à Paris, chauffeur du bûcher sublime, monte et se dilate en clarté. De là le profond éclairage des esprits. Voilà trois siècles surtout que Paris triomphe dans ce lumineux épanouissement de la raison qu'il envoie de la civilisation aux quatre vents et qu'il prodigue la libre pensée aux hommes. Paris a sur la terre une influence de centre nerveux. S'il tressaille, on frissonne. Il est responsable et insouciant et il complique sa grandeur par son défaut. Il se contente trop souvent d'avoir de la joie. Joie athénienne aux yeux de l'historien, joie olympienne aux yeux du poète.
France Inter. Augustin Trapenard.
Bonjour à tous et bienvenue dans Boomerang. Mon invité aujourd'hui est un artiste qui n'a pas cessé de s'exprimer depuis les attentats de Charlie Hebdo du 7 janvier dernier à travers ses dessins ou ses prises de parole pour réaffirmer ses valeurs de laïcité, d'unité, de liberté. Bonjour Johan Sfar.
Bonjour Augustin.
Merci beaucoup d'être là. Paris, dans les mots de Victor Hugo, il y a 150 ans, les lumières, les étincelles, la joie, ça vous évoque quoi ?
Il y a une charge émotionnelle depuis quelques jours, mais qui nous impose quand même de penser. Parce que moi, dès qu'on me dit de pas sortir, je sors. Et je croise une jeunesse depuis quelques jours qui sait pas quoi penser. Et je crois qu'on a le devoir de réfléchir en ce moment. Ils sont égarés parce que ça fait un an qu'ils se disent on a dû faire quelque chose de mal. Moi, ça fait un an que je subis les Je suis pas Charlie qui me disent les dessinateurs sont allés trop loin. J'ai même entendu qu'on avait attaqué un hyper cachère parce que c'était la faute d'Israël. Là, aujourd'hui, on s'aperçoit que sortir dans la rue, c'est se faire flinguer. On va nous expliquer que c'est parce qu'on a osé attaquer Daesh. La réalité, c'est qu'il me semble qu'il est temps d'être fier de notre mode de vie. Il est temps de sortir de l'idée de guerre de religion. Il y a deux erreurs à pas commettre. La première, c'est de jeter l'opprobre sur les 5 millions de musulmans qui vivent dans notre pays. Et la deuxième, c'est de s'imaginer qu'on ne vit pas une querelle religieuse. Évidemment qu'il y a un fond religieux dans ce qui se produit, mais on ne doit pas répondre au fondamentalisme par de la religion, on doit y répondre par de la dialectique, par de la pensée, par de la philosophie.
Quand on s'attaque à la France, Johan Sfar, à Paris, quand on s'attaque à des gens attablés à des terrasses de café, réunis dans une salle de concert ou dans un stade pour un match de foot, on s'attaque à quoi ?
Moi, ce qui me paraît important, c'est de savoir que les mitraillettes ont tué indifféremment des Arabes, des Blancs, des Noirs, des gens de toutes les couleurs, de toutes les religions. Tout le monde est victime, pour peu qu'il adhère à notre mode de vie, qui consiste à ne pas considérer la religion d'autrui, qui consiste à tout partager. Alors je suis le premier à m'insurger quand on demande aux musulmans de France de se justifier, parce que c'est des citoyens comme les autres, ils n'ont pas le droit, ils n'ont pas à le faire. Et en même temps, il y a 10 000 individus radicalisés sur notre sol. On tolère les jeunes gens qui reviennent de combat en Syrie, on les laisse se promener dans la rue. Et il y a un désarroi et des imams, et des professeurs, et des gens des quartiers qui savent que quand ils signalent un individu, il ne se passera rien. Moi, ça fait un an que je parle dans les écoles, dans les lycées, que je rencontre des gens, et les gens se sont sentis lâchés par l'administration, pas par méchanceté idéologique, mais par manque de moyens. Donc, il me semble qu'il est temps d'épauler ceux qui, quelle que soit leur religion, quelle que soit leur couleur, ont envie de se lever contre ce retour à l'âge du bronze et de la violence.
Vous y attendiez à une réplique de cette ampleur ?
Tout le monde s'y attend depuis un an. Personne n'est surpris. Notre police et notre armée a arrêté un nombre incalculable de tentatives depuis un an. Il faut savoir aussi une chose, c'est un secret, mais il faut le dire, il n'y aura pas plus de militaires, il n'y aura pas plus de police parce qu'il n'y en a pas davantage. Ça fait un an qu'ils sont au taquet. Donc il y a un relais citoyen qui est essentiel, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, chacun doit apprendre à se protéger. Je ne parle pas physiquement, je parle idéologiquement. Il me semble qu'il faut rappeler que notre spiritualité, c'est les musées. Notre sexualité, elle ne mérite pas qu'on crache dessus. On n'est pas des dépravés. On est un pays où les hommes et les femmes sont libres. On est un pays où des hommes et des femmes de même sexe ont le droit de s'embrasser. S'il y a des gens que ça rend malade, tant pis pour eux. Maintenant, c'est dommage qu'on ait laissé aussi. On fait la leçon aux musulmans de France, mais ce n'est pas les musulmans de France qui ont laissé le Qatar financer nos stades de foot. Je veux dire, nos élites se sont vendues à des pays de l'âge du bronze pour des raisons d'argent, de la même manière qu'à d'autres époques, on se vendait à toutes sortes d'occupants. Il me semble que les musulmans de France sont les plus vulnérables face à ça. Ensuite, nous tous ensemble, comme Français, on est vulnérables. Il est temps de réinventer une espèce de plaisir à être ici en Europe.
Où est-ce que vous étiez, Johannes Farr, vendredi 13 novembre, au moment des premières attaques?
Moi, j'ai eu de la chance parce que j'étais parti de mon atelier plus tôt, parce que j'avais une dédicace en librairie, et mon atelier est au milieu des lieux où il y a eu les tueries, et notre voisine n'a pas eu cette chance. Elle est descendue, elle savait rien, et elle s'est trouvée dans la rue. Il n'y avait pas de flics, il y avait juste deux cadavres devant notre porte.
Comment vous avez réagi? Qu'est-ce que vous avez fait, vous, tout de suite?
Moi, j'ai eu le sentiment terrible de revivre en mille fois pire l'histoire de Charlie Hebdo. On est obligé de dire, moi, mon sentiment, c'est qu'on a perdu un an. Mon sentiment, c'est que quand il y a eu Charlie, il y a eu un rassemblement émotionnel. Et ensuite, trois jours après, on a vu ressortir toutes les ordures qui venaient au son de « Je suis pas Charlie », diviser encore ce pays. Donc, Manuel Valls nous a dit qu'on est en guerre. Si on est en guerre, essayons de pas nous disputer entre nous. Je crois qu'il y a une jeunesse qui sait pas quoi penser. Et il faut arrêter d'avoir honte, d'avoir des idées de liberté, de partage, de trucs. Et c'est courageux. Il faut pas... Ce côté judéo-chrétien qui consiste à se sentir coupable quand quelqu'un nous tape dessus, il faut sortir de là.
En parlant de liberté et de partage, dès vendredi soir, vous avez publié sur Internet, sur votre compte Instagram, une série de dessins où vous exprimez votre désarroi, où vous rendez hommage aussi à la devise de la ville de Paris en latin, Fluctuat nec mergitur. Qu'est-ce qu'elle nous dit, cette devise aujourd'hui?
Ça nous dit qu'on est un très vieux pays, ça nous dit qu'on a été mille fois envahi, massacré, agressé, et que Paris s'est toujours relevé. Ma première réaction, c'était parce que nos amis américains ont commencé à commenter les attentats par Pray for Paris. Il faut prier pour Paris. Et c'est vrai qu'au niveau intime, chacun peut avoir une spiritualité, mais qu'on nous renvoie tout de suite à la religion, alors qu'il faut une réponse dialectique, il faut une réponse de la pensée. Ce qui est délicat, c'est que quand on est meurtri, quand on est dans l'émotion, ben malgré tout, on est obligé de penser, parce que sinon d'autres vont le faire pour nous.
Qu'est-ce qui la menace, l'unité, aujourd'hui, à votre avis?
Tout. C'est-à-dire que, d'un côté, je répète, les musulmans qui vivent en France vivent sous terreur, sous une double ou sous une triple terreur. Moi, j'ai très peur aussi du passage à l'acte de l'extrême droite, qui nous pend au nez.
La récupération.
Bien sûr. Et il faut savoir qu'on n'est pas sous menace pendant deux jours ou pendant trois jours, on va être sous menace pendant des années. C'est-à-dire qu'il va y avoir... Moi, je pense au GIA, je pense à l'Algérie. Les amis qui me comprennent le mieux, ce sont les Algériens, qui disent, au début, on se moquait des barbus du GIA, et après, on a eu 200 000 morts. Et donc, regardez l'Algérie d'il y a 20 ou 30 ans, c'est comprendre très bien là où on se trouve aujourd'hui. Et on a plus que jamais besoin... Oui, besoin de s'aimer. J'entends, je sais plus qui disait, mais est-ce qu'on doit tendre l'autre joue? Certainement pas. Mais fermer nos bras, non. Moi, mon métier, c'est pas de tenir un fusil. Moi, mon métier, c'est de faire des dessins, d'essayer d'avoir le moins d'idéologie possible, d'écouter ce qu'on me dit. Et j'ai des gros points d'interrogation, comme tout le monde. Je suis un peu KO debout.
En parlant de points d'interrogation, vous mentionniez la phrase du président Hollande et du Premier ministre Manuel Valls, on est en guerre. Contre qui on est en guerre?
C'est à ça qu'il faut répondre. Parce que si nous, on remplit pas ces blancs, l'extrême droite va les remplir pour nous. Parce que les gens vont dire, ah oui, on est en guerre contre les musulmans. C'est pas vrai. On est en guerre contre 10 000 personnes radicalisées qui ont la nationalité française, qui vivent sur notre sol. Il y a aussi un contexte de politique extérieure, mais qui, moi, me concerne très peu. Moi, ce qui me concerne, c'est, dans mon pays, les 10 000 citoyens français qui ont envie que ce pays explose. Et je crois que là, oui, on a le devoir de se lever tous contre... Et il y a des petits signes. Quand il y a eu cette loi contre la burqa, que des dames ont continué de la porter, et que les mamans arrivaient dans les écoles avec des gants pour pas serrer les mains aux institutrices, les instituteurs, ils crèvent de ça. Ils en peuvent plus Et je vous parle de gens, et maghrébins, et arabophones, et musulmans, qui n'en peuvent plus de subir l'intégrisme, et ils savent que ça sert à rien de se lever contre ça, parce qu'il n'y aura pas de relais administratif. Aujourd'hui, quand un gamin dans les collèges et lycées se radicalise et devient islamiste, les directeurs d'établissement temporisent, parce qu'ils ne savent pas où le mettre. Et évidemment, il ne faut pas le mettre en prison, mais il faudrait des mesures éducatives pour encadrer ces gosses. Quand on a empêché un gamin de partir pour le djihad, on lui impose une heure de psychanalyste par semaine. J'ai dit la phrase la plus con du monde, j'ai dit il faudrait des profs de gym. Ouais. Il y a des gamins qui sont paumés, qui ont envie d'encadrement, qui ont envie de violence. Évidemment qu'il faut des bibliothèques, évidemment qu'il faut des profs de gym. Quand j'ai commencé ma carrière comme aide aux devoirs à Bagnolet, il y avait 8 stages de foot pour 100 élèves, et on me disait en donnant naissance, ça coûterait trop cher. Vous imaginez ce qu'on aurait économisé à l'époque si on avait encadré cette jeunesse.
Précisément, Johannes Farr, qu'est-ce que vous attendez du gouvernement, des politiques aujourd'hui? Un durcissement des mesures de sécurité? Plus d'intransigeance?
Ils peuvent pas, ils sont au taquet. Moi, je veux plus de mesures culturelles. Il n'y a pas un enfant qui préfèrent l'islamisme à la culture. Ils tombent dans l'islamisme quand il n'y a pas de bibliothèque ouverte dans leur quartier. On va encore dire que je suis naïf, mais moi je ne peux pas tenir une arme, je ne peux pas faire la protection. Mon seul métier, c'est de faire des dessins. Et je crois qu'il faut avoir confiance dans notre art, dans notre littérature, dans notre civilisation. La littérature, c'est plus riche que la pensée religieuse. Et ça, il faut oser le dire. Parce que c'est assez curieux d'ailleurs ce qui s'est passé. J'ai commencé à mettre sur Internet « Ne priez pas pour nous, pensez » ou je ne sais plus quoi. Et ce sont des religieux américains protestants qui s'en sont pris à moi. Donc je me suis dit, c'est marrant, il y a une résurgence de la pensée médiévale du « si tu pries, ça va te protéger ». Mais c'est très bien, c'est la spiritualité. Mais ce n'est pas là-dessus que s'est construite la France.
Johannes, ça, rien n'a changé pour vous depuis les attentats de Charlie Hebdo le 7 janvier dernier?
Là, on est face à quelque chose de différent. Charlie, on a eu l'impression d'un drame. Là, on a le sentiment depuis 3 jours d'un changement de mode de vie. On va être là pour des mois et pour des années. Ça veut dire qu'on va s'habituer à avoir des lieux autant sécurisés que les aéroports. Ça veut dire que notre mode de vie va changer. Et ça me rend foudrage. Mais vraiment foudrage parce que on a laissé... Aujourd'hui, on dit qu'il y a 10 000 radicalisés en France. Il y a 2 ans, ils étaient moins de 2 000. C'est ça qui se passe. C'est un phénomène organique. Comment faire pour que les adhésions à cet extrémisme cessent? Comment faire pour redonner envie de notre démocratie, de notre mode de vie, de tout ça? Il ne faut pas l'imposer, la démocratie, mais il faut être capable. Si on n'est plus capable de faire comprendre que notre façon de vivre à plein de civilisations, plein de pensées, plein de religions dans la même ville, il faut être capable de montrer que ça vaut le coup.
Tous les jours, Johannes, on défriche l'actualité de la culture dans Boomerang. Quelle est-elle aujourd'hui, lundi 16 novembre 2015? Rester debout, être au rendez-vous malgré tout. Samedi soir au festival endeuillé, des rendez-vous soniques de Saint-Lô, Isia, Feu Chatterton et les autres artistes programmés pour la soirée ont tenu à monter sur scène et à rendre hommage en musique aux victimes des attentats de vendredi. Aux quatre coins du monde, artistes et musiciens en ont fait de même. Madonna à Stockholm, Coldplay à Los Angeles ou le Metropolitan Opera de New York. Tous ont exprimé en musique aussi leur tristesse et leur soutien aux Parisiens. On applaudit dès demain.
Est-ce que tu crois que la volonté d'Allah, c'est de tuer des enfants?
Du 7e art remis à plus tard suite aux attaques de vendredi, les distributeurs du film Made in France de Nicolas Boukrieff ont décidé de reporter la sortie du long métrage prévu mercredi prochain. En effet, celui-ci raconte l'infiltration par un journaliste d'une cellule djihadiste qui veut semer le chaos dans Paris. L'affiche choc qui surimpose une Kalachnikov et la tour Eiffel a également été retirée des rues et des couloirs de métro. C'est chaud.
Bienvenue au Louvre.
Pour que l'art, la culture et la vie reprennent malgré la barbarie, après un week-end sans culture, les établissements publics culturels et notamment les salles de spectacle d'Île-de-France, fermées depuis samedi, rouvriront à partir de 13h, après la minute de silence national. La ministre de la Culture, Fleur Pellerin, a répété avec force et solennité que la culture est plus que jamais ce lieu symbolique de découverte de soi et des autres, d'échange, de rassemblement, un engagement.
Moi, je fais ce que je fais parce que j'ai envie de le faire, en fait. J'écris le livre que j'ai envie d'écrire au moment où je l'écris.
La romancière Agnès de Sarthe est l'invitée d'honneur de Lettres d'automne, rendez-vous littéraire de Montauban, qui célèbre aujourd'hui sa 25e édition et qui a décidé de maintenir sa programmation. Jusqu'au 29 novembre, près d'une centaine d'artistes et d'écrivains sont attendus dans le Tarn-et-Garonne pour faire résonner la musique des mots et partager la culture et les idées pour apporter les réponses les plus appropriées aux horreurs de l'obscurantisme. Johannes Farr, les établissements culturels qui rouvrent aujourd'hui à 13h après la minute de silence... Ça va dans le sens...
Je sais pas. Comment on fait quand le président vous dit ne sortez pas et qu'en même temps on se désole que les cafés soient vides? Donc on sait pas quoi faire, on nous dit il faut pas nous rassembler, en même temps on veut nourrir nos esprits. Moi je sais pas ce qu'il faut faire, je donne pas de mot d'ordre, je suis...
Et qu'est-ce que vous faites vous?
Moi je suis complètement paumé, je sors dans les rues, je parle avec tout le monde, je suis désolé de cette culpabilité qu'a notre jeunesse, qui passe leur temps à dire qu'est-ce qu'on a fait de mal, mais t'as rien fait de mal, t'es face à des sauvages qui veulent que tu meurs, et toi il faut te réveiller. Et évidemment que ça n'a rien à voir avec le nazisme, mais ça ressemble quand même un petit peu.
Ça a à voir avec du bruit, là, en l'occurrence, il faut se réveiller, ce que vous dites, tous ces musiciens qui ont choisi de maintenir leur concert, de chanter pour la France, de faire du bruit tout simplement, il faut des minutes de silence ou des minutes de bruit, d'applaudissements, de clap.
Il faut sans doute les deux. Hier j'étais chez le pianiste David Abramovitz et il a fait venir plein de musiciens classiques qui jouaient. Il a un minuscule appartement, il y avait 30 musiciens avec des contrebasses, des pianos, du chant lyrique, et je me suis caché pour pleurer. Il y avait un petit garçon qui écoutait, il était avec sa maman, et je me suis dit oui, mais Paris c'est ça.
C'est la musique?
Entre autres.
Parmi les attaques dont a été victime la ville de Paris vendredi, il y a eu cette prise d'otage au Bataclan pendant le concert du groupe de rock californien Eagles of Death Metal. Dans son communiqué, Daesh est très clair sur sa volonté de frapper un lieu où s'étaient réunis des centaines d'idolâtres dans une fête de perversité. C'est aussi la musique et le rock'n'roll qui sont attaqués.
Oui, et je veux pas qu'on nous regarde de haut. Je tolère pas, même si ce sont des primitifs, même s'ils ont jamais lu un livre dans leur vie, je tolère pas qu'on nous regarde de haut. On est une belle nation, on est un vieux pays, on a toujours été ouvert, on a été ouvert à toutes les pensées, à toutes les religions aussi. Et de quel droit on nous regarde de haut? Nous, on a une spiritualité, vraiment. Il n'y a pas que les livres saints, il y a aussi les musées, il y a aussi les peintures, il y a aussi les discussions, elles sont belles dans les cafés en ce moment. Moi, j'ai pas vu de racistes depuis quelques jours. J'ai pas vu de méchants. J'ai vu des gens hébétés, j'ai vu des gens qui sont perdus. Il est temps d'être fier, non pas de notre nation, mais du territoire dans lequel on a pu vivre pas si mal quand même depuis pas mal d'années.
Samedi après-midi, dans une publication sur votre page Facebook, vous citiez un philosophe, Johann Sfar, Clément Rosset, qui prescrit, justement, depuis longtemps, la posture de la joie, même quand le tragique est au rendez-vous.
La joie, c'est l'inverse du bonheur. C'est comme on sait que le bonheur ne va pas être possible, la joie se décrète, et je crois qu'il a dit, la joie est indépendante des phénomènes. Et oui, bien sûr qu'il faut rechercher et l'ivresse, et la musique, et la fête, comme à Londres, sous les bombardements pendant la Deuxième Guerre mondiale, ça n'a jamais autant baisé. J'en ai marre qu'on ait honte du sexe, j'en ai marre qu'on ait honte de s'aimer. J'en ai marre qu'on ait honte de nos homosexualités, de nos manières de vivre, de nos manières d'être. Faut arrêter de s'excuser. S'il y a des gens à qui ça convient pas, mais vraiment tant pis pour eux.
Quel rôle ils ont à jouer, les intellectuels? Vous parliez de Clément Rosset, les philosophes, dans cette...
C'est ça, je crois qu'on a besoin de philosophes. On a besoin de gens qui arrivent à construire une pensée assez forte pour s'opposer aux religions et qui en même temps soit une pensée du doute, qui en même temps soit une pensée ouverte. Donc il faut sans doute regarder, il faut sans doute arpenter. J'ai que faire des professionnels de la philosophie, mais les gens qui ont des questions ouvertes, ça m'intéresse beaucoup.
Poser des questions?
Oui. Oui, voir ce que les gens ressentent et transformer ça en idée. Et si on peut transformer ça en idée collective, ce serait très bien.
Oui, parce que la réponse, qui peut les apporter? Les réponses?
Mais ça vient de la rue. Ça vient forcément de la rue. On a beaucoup caricaturé la jeunesse de nos banlieues. Moi, je sors depuis un an, je vois des gens qui sont paumés dans des choses très complexes. Il y a des jeunes gens dont la famille est religieuse, qui sont des braves gens, qui ont peur d'être stigmatisés, qui essayent de bien se comporter, qui essayent d'insulter personne. On a le devoir d'aller leur parler. On doit aller au-delà du « je suis Charlie » ou « je suis pas Charlie ». Et ce jour-là, on va s'apercevoir qu'on a très peu d'ennemis. Moi, je crois que la France, à 999%, elle est solidaire, elle s'aime, elle a envie de vivre ensemble. Il y a une infime minorité de Français qui veulent qu'on crève. Il faut pas les laisser gagner.
Pourquoi on décide de prendre la parole en tant qu'artiste, Johann Sfar?
Moi, c'est parce que vous m'avez appelé, sinon je serais resté chez moi à dessiner. Moi, je viens ici pour dire que je sais pas, j'ai pas de réponse, j'ai pas d'idéologie, j'aime beaucoup mon pays, j'aime beaucoup les jeunes gens que je rencontre tous les jours. Je suis comme tout le monde, j'ai fondu en larmes en voyant les gueules de ces gosses qu'on a crevé juste parce qu'ils écoutaient du rock. J'ai une rage, mais je sais pas où la mettre, comme beaucoup de gens.
Cette parole, Johann Sfar, on vous en remercie. Tous les jours de cette semaine dans Boomerang, j'ai décidé de vous passer une chanson sur Paris. Ce matin, celle si belle de Marc Lavoine et Souad Massi. Vous êtes sur France Inter depuis Paris. Vous écoutez Boomerang.
Je marche dans tes rues qui me marchent sur les pieds. Je bois des cafés. Je traîne dans tes métros, tes trottoirs, même un peu trop. Je rêve dans tes bistrots. Sois sur tes bancs, je regarde tes monuments. Je trinque à la santé de tes amants. Je laisse couler ta scène sous tes pantalons rengaines. Toujours après la peine.
Je pleure dans tes taxis quand tu brilles sous la pluie. Est-ce que t'es belle en pleine nuit? Je pisse dans tes caniveaux, c'est de la faute à Hugo. Et je pique. Je dors dans tes hôtels, j'adore ta tour Eiffel. Au moins elle est fidèle. Quand je te quitte un peu loin, tu ressens le chagrin. Ça me fait un mal de chien.
Paris, Paris, combien Paris, tout ce que tu veux. Boulevard des bouleversés. Paris, tu m'as renversé. Paris, tu m'as laissé. Paris, Paris, combien Paris, tout ce que tu veux. Paris, Paris, tout nu. Paris, Paris, perdu. Paris, tu m'as laissé
sur ton pavé.
Je me réveille dans tes bras, sur tes quais, y a de la joie. l'œil du loup dans tes bois. Je me glisse dans tes ciné, je me perds dans ton quartier, je m'y retrouverai jamais.
Je nage au fil de tes gars et mon regard s'égare. Je vois passer des cafards sur tes bas. Je m'accroche au réverbère, tes pigeons manquent pas d'air. Et moi, de quoi j'ai l'air?
Paris, combien Paris, tout ce que tu veux, boulevard des bouleversés. Paris, tu m'as renversé, Paris, tu m'as laissé. Paris, Paris, combien Paris, tout ce que tu veux, Paris, Paris, tout nu, Paris, Paris, perdu, Paris, tu m'as laissé.
Sur ton Paris.
Je bois dans tes cafés.
Une chima de ton ami, qu'elle me barani.
Je marche dans tes rues, qui me marche sur les pieds. Je bois dans tes cafés.
Une chima de ton ami, qu'elle me barani.
Sur France Inter, Augustin Trapenard.
Il est fidèle à lui-même dans le studio, à mes côtés, solide, sage, souriant. Il est venu avec sa franchise, son naturel, sa parole libre. Johann Sfar nous fait l'amitié d'être parmi nous ce matin dans Boomerang, trois jours après les attaques terroristes qui ont frappé Paris. Vendredi soir, Johann, la nouvelle de ces attaques s'est répandue comme une traînée de poudre sur les réseaux sociaux. Et parmi les messages de soutien qui ont circulé dans le monde entier, vous le disiez, il y a celui-ci, « Pray for Paris », prier pour Paris. Ce « prier pour Paris », il vous a fait réagir.
C'est pas méchant, je comprends qu'au niveau intime, les gens aient besoin de spiritualité, aient besoin de prier, mais tout de même, il faut éviter de tomber dans le religieux dans ces moments-là. Il faudrait se réunir autour d'autre chose, puisque c'est ça qui est attaqué. On attaque le fait que notre pays n'est pas assez religieux. Et je crois qu'il y a deux erreurs. La première, c'est de stigmatiser l'islam, ce qui serait vraiment monstrueux. Et la deuxième, c'est de dire on n'est pas face à un problème religieux. Mmh. Évidemment qu'on est face à un problème religieux. On est face à un prétendu vide spirituel occidental. Évidemment, c'est faux. Évidemment, notre civilisation peut fourbir de spiritualité et de pensée toute jeune âme ouverte. Mais on a fait croire à la jeunesse qu'il n'y avait plus de spiritualité chez nous. Donc moi je crois que les saloperies se développent sur le vide et on a trop laissé en jachère le cœur de nos enfants.
Vous voulez dire que se prier pour Paris c'est aussi le symptôme d'un retour en force du discours religieux quel qu'il soit, d'un ordre religieux, Johann Sfar?
Oui, mais c'est pas méchant, on sait que les Américains pensent comme ça, on sait que les Saoudiens pensent comme ça, mais on n'est ni Saoudien ni Américain, donc c'est ce qui fait que la France est formidable. La laïcité c'est pas la lutte contre la religion, c'est l'idée que la religion est une pensée comme les autres, qu'il n'y a pas lieu à parler plus fort que les autres.
Évidemment, le symptôme le plus extrême de ce retour du religieux, s'il existe, c'est quand même ce phénomène de radicalisation de toutes les confessions. D'ailleurs, qu'est-ce qui se passe aujourd'hui, Johann Sfar?
Peut-être que le monde arrive à la fin de ses ressources, peut-être qu'il y a un sentiment d'apocalypse ou de Walking Dead ou de je sais pas quoi. On est là pour donner autre chose à manger à la jeunesse. Je crois qu'il y a beaucoup de jeunes qu'on a laissés tout seuls aussi, devant des télévisions, devant des écrans, devant tout ça. Je ne suis pas contre les écrans, mais il faut des gens autour.
Mais vous en parlez dans vos dessins, vous le disiez un petit peu tout à l'heure dans ces extraits de vos carnets que vous avez publiés avant-hier sur Internet. Vous rapportez une conversation que vous avez eue au printemps dernier avec une psy qui s'occupe de réinsérer les jeunes radicalisés avant leur départ en Syrie à raison d'une séance par semaine.
Oui.
C'est efficace, ça?
Non, pas du tout, mais elle a appris des choses. Elle regarde le réel, elle a vu une perméabilité dans les familles, c'est-à-dire que ces jeunes gens radicalisés, ils arrivent à faire croire à leur famille qu'ils sont légitimes. Ils arrivent à faire croire à leur famille que eux ont compris les vrai texte saint. Or, il faut que les théologiens nous aident. Et moi ce que j'ai rencontré beaucoup de monde depuis un an, y compris des imams, et il faut rappeler que les imams aussi sont dépassés. Ils ont le même désarroi que nous, donc on est vraiment dans le même camp. Et il faut des théologiens pour répondre à cette jeunesse, pour dire... Gilles Kepel, l'historien, disait il y a autant de décapitations dans l'Iliade et l'Odyssée que dans le Coran, mais nous n'avons pas une lecture littéraliste de l'Iliade et de l'Odyssée. Donc ce dont on a besoin, c'est pas d'attaquer le Coran, ce dont on a besoin, c'est de créer du commentaire, de raconter qu'il y a eu cet empire ottoman qui a créé du paternalisme, de l'autorité, du radicalisme pendant pratiquement un millénaire. Et c'est contre ça qu'on lutte. On lutte contre l'héritage de l'Empire ottoman, à mes yeux.
Peut-être faut-il aussi, Johann Svar, des symboles. Ottawa, Londres, New York, Dublin, la Marseillaise qui a retenti partout dans le monde depuis vendredi. Quel symbole est-ce que c'est pour vous, la Marseillaise, Johann Svar?
Oui, on est le seul pays du monde à avoir honte du drapeau français. Je crois qu'on se souvient pas que le rouge dans le drapeau français, c'est le sang du peuple. Notre pays a commis autant de crimes que les autres pays. Un pays, c'est un territoire. On y vit, on y est protégé. Et je crois qu'il est temps de pas laisser les symboles nationaux à l'extrême droite. Moi, je veux rien laisser à l'extrême droite, en fait. Et le drapeau français, il est à nous, quelle que soit notre couleur, quelle que soit notre religion. Et un pays, c'est à nous de l'investir de sens, c'est à nous de décider que le drapeau français sera pas un drapeau nationaliste.
Pour réactiver ces symboles, c'est ça que vous dites.
Si on m'avait dit qu'un jour je mettrais le drapeau français sur ma page Facebook, je serais tombé de ma chaise. Mais je crois que là, on en est là. On en est à défendre un territoire, et un territoire, ça se défend avec des idées. Moi, je veux pas des idées du Front National, je veux pas des idées des radicaux religieux. Donc il va bien falloir être capable de développer nos idées à nous, même si elles ont l'air faibles parce qu'elles contiennent du doute, mais ce doute, c'est notre force.
Elle a déjà commencé la récupération pour vous?
C'est un bras de fer. C'est un bras de fer, mais il est intéressant en même temps. Qu'est-ce qu'on nous propose comme politique? Quand le Premier ministre dit « on est en guerre », mais il ne dit pas contre qui, évidemment tout le monde va finir la phrase. C'est important qu'il y ait du débat dans un pays. Mais entre le débat et la fracture, il y a des nuances.
Comment vous l'imaginez l'après 13 novembre?
Personne ne l'imagine très bien, personne ne sait ce qui va se passer, on sait que ça va durer. Et je ne sais pas, on est un beau pays, on s'est relevé de tout. Il est certain qu'on ne vit pas une des périodes les plus jolies. On n'a pas connu la guerre, nous, depuis qu'on est né. Donc là, on est dans une guerre dont personne nomme l'ennemi. Je ne voudrais pas qu'il y ait la Saint-Barthélemy, c'est ça qui me ferait peur.
Je vous ai demandé, Johann, de venir avec un texte, avec des mots, possiblement ceux de quelqu'un d'autre, des mots qui vous évoquent ce qu'on vit aussi aujourd'hui. Vous avez choisi un extrait de Paris est une fête d'Ernest Hemingway, ce roman qu'on peut brandir aussi comme un symbole. À vous.
Oui, parce que c'est l'époque où les Américains étaient fascinés par notre mode de vie. Et je peux vous dire que c'est pas la religion qui les fascinait, c'était le sexe et l'alcool et les artistes. Alors il y a ce passage. « Ce fut la fin de notre première période parisienne. Paris ne fut plus jamais le même. C'était pourtant toujours Paris. Et s'il changeait, vous changiez en même temps que lui. Il n'y a jamais de fin à Paris et le souvenir qu'en gardent tous ceux qui y ont vécu diffère d'une personne à l'autre. Nous y sommes toujours revenus. Et peu importait qui nous étions, chaque fois ou comment il avait changé ou avec quelle difficulté ou quelle commodité, nous pouvions nous y rendre. » Paris valait toujours la peine, et vous receviez toujours quelque chose en retour de ce que vous lui donniez. Mais tel était le Paris de notre jeunesse, au temps où nous étions très pauvres et très heureux.
Merci, Johann Svar, d'être venu porter cette parole qui n'est pas seulement celle de l'indignation, de la colère, mais qui est aussi celle de l'espoir, de la liberté et de la fête. Merci, et place aux médias avec Sonia, l'instant M, juste après ça.
Music is the magic of a secret world, a secret world, a secret world. The music is the magic of a secret world. It's a world that is always within. The music is the magic. It's a place where the spirit is home. Over again. Shut up, buddy,
Music is Magic, Sarah McKenzie sur France Inter. C'est l'heure de l'instant M, l'instant média, avec Sonia De Villers.